Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du 1er décembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons du rôle des premières dames aux États-Unis, quelques jours après le décès de Rosalynn Carter, l'épouse de l'ancien président Jimmy Carter. Et pour en parler, nous aurons Mohamed Mbodj, professeur d'histoire au Manhattanville College de New York, et René Lec, analyste politique. Nous les retrouvons dans un instant pour commencer les échanges. Professeur Mohamed Mbodj, bonsoir.
Bonsoir.
René Lec, analyste politique, bonsoir.
Bonsoir, Mohamedou.
Voilà. Commençons tout de suite, professeur Mohamed Mbodj, par le rôle des premières dames, qui sont généralement aux côtés de leur mari pendant les campagnes électorales, et même lorsqu'ils prêtent serment la Constitution, la Bible, elles sont là à leur côté, elles participent parfois activement à leurs activités, mais visiblement, elles n'ont pas de rôle constitutionnel. Est-ce qu'il y a des textes de loi, est-ce qu'il y a des documents officiels qui encadrent le rôle d'une première dame aux États-Unis?
Non, de façon formelle, non. Mais c'est une pratique et une vieille pratique qui devient un peu, comme on dit dans le jargon américain, grandfathered. C'est-à-dire que c'est devenu une tradition. Une tradition qui est née, bien entendu, de la tradition européenne où il y avait un couple royal, donc le roi et la reine, avec tout ce que cela signifie comme apparat, et quelquefois aussi pouvoir pour la reine. Et donc, de ce point de vue-là, que Martha Washington, la femme de George Washington, apparaissent un peu dans ce cadre-là, était assez logique, et par la suite, c'est devenu une sorte d'institution qui n'est pas inscrite de façon formelle et très claire par la loi américaine, par la Constitution, mais une pratique où elle va disposer d'un bureau, elle va disposer d'assistants, elle va disposer d'un budget, et tout ça en marge du budget dont dispose donc son président, le mari, et qui fait que c'est une sorte d'annexe de la présidence. Mm. Maintenant, d'annexe a joué un rôle important, effectivement, l'histoire de temps en temps a fait que ces premières dames ont joué des rôles suffisamment importants pour que cela soit noté par les historiens.
Alors, René Lec, le professeur Mbodj le dit bien, les premières dames disposent d'assistants, de bureaux et parfois d'un rôle reconnu par la coutume, la tradition aux États-Unis. Mais selon vous, pourquoi est-ce que ce n'est pas formel? Pourquoi est-ce qu'on ne formalise pas son rôle officiellement, René Lec?
Oui, au fond, comme le dit mon ami Mohamed Mbodj, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, ce n'est pas un rôle formel, mais c'est un rôle qui est quand même relativement important, du moins en tout cas du point de vue de la symbolique de la gestion des affaires du pays. D'abord, elle est l'hôte de la Maison Blanche, ce qui est une évidence. Hein, en plus de ça, à une époque où c'était un rôle prépondérant pour les femmes à l'époque, heureusement les choses sont en train de changer. Elle a un rôle de représentation des États-Unis, aux États-Unis comme à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur. Et bien entendu, elle a un rôle de soutien et de conseil au président de la République. Alors la plupart des First Ladies ont eu des projets notamment elles ont défendu des causes sociales très particulières. On pourra, j'ai quelques exemples selon les First Ladies. Et elles ont aussi un rôle diplomatique, même s'il est non officiel, ce n'est pas un rôle officiel, mais elles jouent souvent un rôle diplomatique de représentation des États-Unis dans certains pays. Plus bien entendu, il y a la question du rôle de l'influence culturelle. Je pense tout de suite, bien sûr, à Jackie Kennedy, qui a influencé beaucoup le secteur de la mode, etc. Donc, elles ont un impact souvent. Elles sont perçues comme des... du fait de leur aura, elles sont perçues comme des faiseurs de mode, disons.
Alors, professeur Mohamed Bodj, un mot peut-être sur les activités quotidiennes des premières dames. Vous avez déjà dit qu'elles avaient des bureaux, des assistants et tout cela. On sait que ces dames sont généralement actives dans le domaine de l'humanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaitez soulever par rapport aux activités de ces premières dames au regard de l'histoire des États-Unis?
Oui, il y a trois, disons, secteurs. Bon, évidemment, le premier a été déjà souligné, donc le côté personnel. Souvent, on attend des premières dames qu'elles aient un projet personnel, que ce soit pour l'éducation ou la santé ou la protection de l'enfance ou quelque chose comme ça. Dans un deuxième domaine, et comme l'a dit mon ami que je salue en passant, mon ami de longue date, René, que je salue en passant, il y a un rôle diplomatique où donc la première dame peut fonctionner comme envoi, comme ambassadeur de son mari et représentant de son mari, pas tellement dans des négociations, mais souvent dans ce qu'on peut appeler une représentation cérémonielle où il est bon que les États-Unis soient représentés par une personnalité de premier plan et surtout pour ce qui est de la couverture par la presse et donc une sorte de pratique de politesse pour cette première dame. Et quelquefois, cette première dame, disons, a réellement un rôle d'ambassadeur et peut effectivement fonctionner. Eleanor Roosevelt était pratiquement l'ambassadrice des États-Unis auprès durant la naissance des Nations Unies. Donc, on peut effectivement imaginer que c'est un rôle important. Maintenant, le troisième rôle qui est un peu plus, disons, fixe, c'est un peu la gardienne de la maison du White House. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est elle qui arrange, c'est elle qui s'occupe du décor, c'est elle qui organise les dîners, que ce soit des dîners avec des politiciens ou des dîners avec des visiteurs de marque, des autres étrangers, d'autres présidents, etc., etc. Elle est un peu en charge de la supervision de tout ce qui est cérémonie qui se déroule donc à la Maison Blanche et donc mais aussi d'une partie du calendrier du président sur le plan social et où donc elle peut filtrer et elle peut recommander donc des entrevues avec le président parce qu'elle a une sorte de première vue ou de premier aperçu sur son calendrier et donc peut quelquefois intervenir et suggérer des choses. Donc voilà ces trois fonctions qui sont plus ou moins délimitées par la tradition, encore une fois. Et il faut aussi se mettre en tête que les États-Unis, quand ils élisent leur président, ils élisent en même temps une équipe. C'est pourquoi il y a un vice-président. Et d'une certaine façon, cette dame est un peu incorporée dans cette équipe de la présidence. Donc, elle n'est pas fondamentalement pas le numéro 3 après le vice-président ou la vice-présidente comme on en a actuellement, mais elle fonctionne un tout petit peu comme ça.
Alors, René Lick, vous l'avez dit, hein, la première dame n'a pas un rôle formel, constitutionnel, mais il se trouve quand même que, vous l'avez dit, certaines premières dames ont des projets, hein, les projets dans le domaine de la santé, de l'humanitaire, et ça veut dire qu'elles ont accès à des fonds publics, à de l'argent public. Alors, comment faire la démarcation entre les fonds publics que la première dame gère et les fonds peut-être qu'elle pourrait gérer à titre personnel dans le cadre de ses activités? Est-ce que le Congrès lui alloue un budget? Comment ça se passe par rapport aux fonds qu'utilisent les premières dames pour leurs activités?
Alors oui, alors ça c'est une très bonne question, une question très importante, surtout pour les auditeurs en Afrique. Il y a une distinction très très nette entre les fonds publics et les fonds privés ou les fonds de fondation. Là, souvent, elles ont des fondations. Et donc ça, c'est considéré comme des fonds privés. Mais les fonds publics sont complètement séparés et ils ne peuvent être utilisés que dans des activités de représentation officielles, que ce soit ici aux États-Unis ou à l'extérieur du pays. Donc à ce moment-là, c'est sur les fonds publics de la Maison-Blanche. Mmh. Mais par contre, tout ce qui sont les activités, les initiatives personnelles, alors ça se fait sur fonds personnels ou sur les fonds de la Fondation. Et il y a un audit qui se fait régulièrement. Et comme vous savez, ici aux États-Unis, cela est pris très au sérieux. Alors, parmi les activités de ces first ladies, de ces premières dames, on a eu des cas assez intéressants. Par exemple, Laura Bush, la femme de George Bush, était très impliquée dans le projet d'éducation où elle a soutenu son mari, qui avait un projet extrêmement important, qui a défini même un peu sa présidence en dehors de la question étrangère, notamment la question de l'Irak. C'était un projet d'éducation et Laura Bush a joué un rôle très important là. Engagement social, par exemple, avec Michelle Obama, qui a joué un rôle très important. Elle avait une initiative sur la santé et le bien-être des enfants. Elle était très active et ça, elle a utilisé, en termes d'activité personnelle, elle a utilisé des fonds privés. Il y avait Eleanor Roosevelt, dont parlait Mohamed tout à l'heure. Elle a joué un rôle très important pendant la Grande Dépression et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et comme vous savez, c'était une des grandes activistes féministes, donc gestion des crises. Et ensuite, bon, Nancy Reagan était connue également pour être un support important de son mari en matière de communication. Lui-même, un ancien acteur, était un grand homme de communication. Et de ce point de vue-là, il s'appuyait beaucoup sur elle, pour son image. Et la dernière à laquelle je pense, c'est Hillary Clinton, qui, bien sûr, elle peut-être c'est celle qui a été le plus impliquée d'un point de vue politique.
Exactement.
Dans les activités des affaires de son mari.
Alors, un mot peut-être, Mohamed Mbodj, sur cette question, l'argent que gèrent les premières dames.
Oui, je crois que René a fait le tour complet, donc il y a bien une distinction entre ce que la première dame et son mari, à travers des fondations, peuvent lever, et donc ce sont des fonds privés qu'ils vont employer à des projets, qui d'ailleurs peuvent être des projets politiques, bien entendu. Mais de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de fonds dégagés par le Congrès, à ce moment-là, la première dame fonctionne un peu comme une sorte de chargée de mission. Hein. Elle n'a pas de salaire. Elle n'a pas de salaire, elle n'a pas droit à une retraite, disons, en proportion de ses fonctions ou de ce qu'elle a fait à la Maison Blanche à côté de son mari. Donc, son rôle est complètement sans salaire, mais néanmoins, lorsque le président l'envoie dans une sorte de mission, aller me représenter à Londres ou à Paris. Là, il y a des frais de mission. Il y a bien entendu tout ce qui fait que les États-Unis soient bien représentés à ce niveau-là. Mais il n'y aura pas de rémunération personnelle. Quand je dis frais de mission, il s'agit bien de prendre en compte le transport, le logement, peut-être les réceptions, quelquefois même la garde-robe, mais il ne s'agit absolument pas pour que la première dame dise, mais j'ai travaillé 15 jours pour le président, donc payez-moi ça. Non, ça n'existe pas dans le système américain. Elle n'est pas élue. Voilà, elle n'est pas élue et elle n'a pas droit aussi à un salaire comme les élus du Congrès. Voilà.
On reste avec vous, Mohamed Mbodj. Alors, on a remarqué, certaines premières dames sont politiquement actives. René Lec l'a déjà dit, avec le cas, par exemple, de Hillary Clinton. On a d'autres premières dames qui se sont montrées un peu moins actives, un peu moins présentes. C'est le cas, par exemple, de Melania Trump. Comment expliquer l'engagement des premières dames, selon vous? C'est dû à leur tempérament? C'est dû à la présence de leur mari, par exemple, Donald Trump, qui était un peu trop présent pour que son épouse puisse exister politiquement? Comment expliquer l'engagement des premières dames sur la scène politique? Mohamed Mbodj.
Cet engagement se justifie quelquefois par des raisons tout à fait évidentes. Par exemple, le président Wilson, puisqu'il était tombé malade et paralysé, et cloué au lit. Donc, sa femme, donc la première dame, a pratiquement, et d'ailleurs pour les historiens, lorsqu'ils regardent la documentation, les archives, etc., souvent elle arrive en tête de la première dame qui a le plus, disons, fonctionné comme président, entre guillemets, dans l'histoire des États-Unis. Donc, souvent, les gens pensent à Hillary Clinton ou à Rosalynn Carter, mais actuellement, c'est vraiment la femme du président Wilson qui semble avoir été celle qui s'est vraiment a mis la main à la pâte d'une façon très claire et très nette à l'époque, donc à la fin de la Première Guerre mondiale, et qui semble être donc celle qui a le plus joué ce rôle. Bon, donc ça, c'est des circonstances, c'est évident. Il y a aussi certainement la personnalité même et l'ambition politique de ces premières dames. Hillary Clinton n'a jamais caché ses ambitions et quelquefois même beaucoup de gens ont pensé que peut-être elle aurait pu réussir mieux si son mari n'était pas Bill Clinton. Donc, de ce point de vue-là, c'est évident que son ambition personnelle fait que si elle le poursuit, elle va effectivement assumer des rôles, elle va vouloir faire des choses et donc mettre son empreinte dans l'histoire. Maintenant, pour ce qui est du président Trump, par exemple, sa femme ne peut pas jouer un rôle très important. D'une part, parce que le président Trump lui-même ayant été marié plusieurs fois, ça diminue un tout petit peu ce que je peux appeler le poids ou la représentativité en tant qu'épouse supportant son mari. Il y a l'écart de l'âge, bien entendu, aussi, qui fait que certainement il y a peut-être une sorte de difficulté à ce que ces deux caractères fonctionnent en même temps et ensemble. Et troisièmement, elle est d'origine étrangère et donc il y a certainement quelque chose de ce point de vue-là qui fait que peut-être elle s'est un peu elle-même restreinte. Disons dans cette, elle s'est abstenue d'avoir une activité plus importante pour ne pas créer donc une sorte de bruit autour de son mari, autour de ses origines à elle, et aussi autour bien entendu de son itinéraire personnel en tant que mannequin, donc modèle, et qui souvent pour certains ne fait pas sérieux, c'est pas le profil d'une première dame. Elle n'est pas. Voilà.
Alors, René Lick, les premières dames, est-ce qu'elles impactent sur la perception que l'opinion a de leur époux? Est-ce qu'on juge parfois les présidents américains en fonction de ce que sont leurs épouses? Si oui, comment et pourquoi?
Oui, mais écoute, c'est souvent le cas. En fait, si vous regardez les sondages pratiquement de tous les présidents, en tout cas de l'ère moderne, ou disons, pour être plus prudent, je devrais dire en tout cas depuis une quarantaine d'années où je suis dans aux alentours, les premières dames ont toujours une popularité plus grande que leur époux. Bon, vous me direz que c'est parce que justement elles ne sont pas aux affaires, donc toutes les décisions impopulaires, ce n'est pas elles qui les prennent. C'est certainement que ça joue un rôle. Mais aussi, c'est que le rôle de représentation dans lequel elles n'interviennent que sur des actions, j'ai presque envie de dire positives, à impact positif. Elles ne sont pas impliquées dans les actions difficiles. Donc, ça fait qu'elles gardent une popularité importante. Et plus elles sont populaires, plus cela, bien entendu, bénéficie à leur mari. Et souvent, plus leur mari les met même en avant, ou l'administration de leur mari, les chargés de communication et autres les mettent en avant. Et parfois, elles peuvent servir de bouclier. Par exemple, si vous prenez le cas de Michelle Obama, malgré le fait que la droite, un peu l'extrême droite, s'est beaucoup attaquée à elle pour les raisons évidentes, notamment liées à la couleur de sa peau, entre autres, sur les questions de mode, etc., le fait qu'elle avait souvent des habits sans manches, etc., Malgré tout cela, elle était extrêmement populaire au point que un nombre important de gens dans le milieu démocrate se disent qu'un jour elle pourrait être une bonne candidate à la présidence.
Alors, Mohamed Bodje, la presse et l'opinion publique, est-ce qu'elles sont exigeantes? Est-ce qu'elles ont des attentes vis-à-vis des premières dames? Si oui, ce seraient lesquelles?
Ah oui, tout à fait. La presse est toujours intéressée, donc, un sujet féminin à la Maison Blanche, c'est toujours la curiosité. Que ce soit un tout petit peu pour créer une sorte de couple royal, comme par exemple les Kennedy, donc Jacqueline et John Kennedy était un peu une sorte de couple royal dans une république d'une certaine façon. Et je crois que René a mentionné en particulier le côté star, le côté influence sur la mode, sur les artistes, etc. de Jacqueline Kennedy. Ça c'est attendu d'une certaine façon. Et d'une certaine façon aussi, ça humanise un tout petit peu la Maison Blanche. C'est une famille où il y a un homme et une femme et quelquefois des enfants entre eux. Et donc, de cette façon-là, c'est très représentatif de ce que l'Américain moyen considère comme étant la norme, comme étant la réalité de tous les jours. Parce que fondamentalement, c'est la cellule familiale qui fonde donc la société. Et si la Maison Blanche est représentée de cette façon-là, c'est parce qu'il y a bien une femme, donc une dame qui incarne le côté féminin donc dans ce couple-là. Et troisièmement, il y a aussi très certainement la presse, elle cherche la petite bête, entre guillemets, vous m'excusez tous les deux, mais d'une certaine façon, il est bien évident que dans un couple, qu'il soit uni ou ne soit pas uni, pour un journaliste, découvrir qu'il y a un problème entre le président et sa première dame, c'est un scoop, c'est fondamentalement une carrière assurée dans une sorte de frénésie de la presse. Et la presse joue bien son rôle. Et les premières dames et leurs maris le savent très bien. C'est pourquoi d'ailleurs ils essaient de présenter des fronts unis qui sont quelquefois très factices en quelque sorte. On a bien l'impression qu'il y a des lézards, mais ces lézards ne seront jamais laissés se développer en faille et pour ne pas effectivement attirer la presse sur des scandales.
René Lick, alors, elles n'ont pas toutes les ambitions de devenir un jour présidente ou même d'entrer dans l'arène politique, mais est-ce qu'il y a des chances qu'une première dame devienne présidente? Si oui, quelles seraient les forces et les faiblesses d'une première dame qui aspirerait à son tour à diriger la Maison-Blanche?
Oui, Mohamed, permettez-moi de relever juste cette expression de Mohamed que j'ai vraiment adorée.
Allez-y.
Je pense que elle décrit bien le rôle de la première dame quand il dit qu'elle humanise. C'est vrai que la première dame aux États-Unis, c'est une manière d'humaniser. Elle humanise le poste de président de la République. Elle humanise la présidence d'un homme. Il donne un caractère où il y a une sorte d'identification pour un Américain ordinaire, pour la population. Il s'identifie humainement au président à travers son épouse qui donne l'impression qu'au fond, il est un peu comme tout le monde. Donc, j'ai bien aimé cette expression qu'a utilisée tout à l'heure Mohamed. Oui, des femmes qui ont des épouses de président qui ont des ambitions politiques et qui peuvent devenir présidentes, ça, il y en a eu dans le passé, hein. Peut-être qu'ils ne se sont bien entendu pas matérialisés, mais qu'ils en avaient la capacité. Je pense que l'une des plus influentes politiquement en dehors de ce dont parlait tout à l'heure Mohamed à propos de Wilson, c'est Eleanor Roosevelt, qui était extrêmement influente, qui était elle-même une powerhouse, comme on dit ici. Elle a joué un rôle important dans la lutte pour les droits civiques. C'était une grande féministe. Elle était très, très influente. Donc, c'est quelqu'un, bon, ce n'est pas arrivé, mais qui aurait pu avoir une carrière politique en dehors de son mari. Et puis, bon, celle qu'on a connue, bien entendu, c'est la carrière de Hillary Clinton elle-même, qui a eu une carrière quand même assez remarquable, qui a été sénateur, ensuite elle a été secrétaire d'État, et elle s'est présentée, elle a été le candidat désigné du Parti démocrate, et en 2016, elle a quand même été la première femme dans l'histoire des États-Unis a remporté avec plus de 3 millions de voix le vote populaire.
Le vote populaire. Alors, rapidement, on arrive pratiquement au terme de l'émission. À chacun de vous, en 15 secondes, si vous étiez demandé de choisir quelle est la meilleure première dame de l'histoire des États-Unis, qu'est-ce que vous diriez? 15 secondes chacun.
Franchement, les historiens classent très peu et je ne vois pas du tout qui je vais. En tout cas, je sais que la plus importante, donc c'est la femme de Wilson.
Voilà. René Lec, rapidement.
Je ne peux pas ne pas parler de Michelle Obama.
Michelle Obama, voilà, on l'a compris. Merci bien d'avoir participé à cette émission de L'Amérique et vous, que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site web, voaafrique.com. Au revoir.